Bien, alors, on connaît les gens et puis il y a des nouvelles têtes. Pour l'instant, j'ai une liste avec 2, 4, 6, 7 inscrits. 2, 4, 6, 7, donc là, il y en a plus. Hein. Ou bien la liste n'est pas la dernière. Ou alors, c'est encore aujourd'hui un jour d'inscription, donc vous avez la possibilité d'assister à ce cours et puis de vous décider par la suite. Hein. Donc j'espère tout faire pour vous séduire comme il faudra et que vous restiez. Après tout, plus on est nombreux, mieux c'est, surtout pour s'amuser, puisque bien sûr, je fais toujours un cours de littérature française et d'explication de textes, mais les œuvres que je choisis sont plus ou moins amusantes. Et le précédent trimestre, pour une petite session de 5 cours, on a eu une œuvre que personnellement je trouvais très drôle, Alto Solo, d'Antoine Volodine, mais qui était de ce qu'on pourrait appeler de l'humour noir. De l'humour vraiment très noir. Or, Zazie dans le métro, lorsqu'il est sorti en France, c'est-à-dire en 1959, a obtenu un prix littéraire. Le premier prix littéraire qu'il a obtenu, c'était le prix de l'humour noir. Et de l'avis de Raymond Queneau, qui connaît très bien l'humour noir, parce que c'est une sorte de branche du surréalisme, son livre ne contient pas d'humour noir. Alors peut-être un des problèmes pour nous, pour vous et pour moi, c'est de comprendre et d'expliquer ce que c'est que l'humour et la différence qu'il peut y avoir avec cette autre forme d'humour qu'on appelle humour noir. Alors bien sûr, noir, ça veut dire quelque chose, hein, d'assez sombre, d'assez dramatique, mais où se situe la frontière entre une plaisanterie, une blague, quelque chose qui est de l'humour, et puis de l'humour noir. Alors, ça sera peut-être déjà un point d'interrogation que l'on peut inscrire, mais je ne peux pas répondre tout de suite, hein. Donc... Alors bien sûr, vous connaissez le mot humour, vous savez qu'il est différent du mot humeur, dont la prononciation est assez proche, hein, surtout pour les Japonais, avec des petits problèmes de prononciation sur certaines syllabes françaises. Humeur et humour, il faut faire très attention. L'humeur, eh bien, c'est... Ma situation de ce matin, je suis de bonne humeur, je suis de mauvaise humeur, je suis d'une humeur noire, ça arrive aussi, c'est-à-dire très en colère, très mécontent, bon, c'est l'état de mon esprit, mais ça ne veut pas dire que je suis dans l'humour, hein, donc l'humeur est un état d'esprit, l'humour est quand même une forme d'expression d'une personne, ou de plusieurs personnes, d'un groupe de personnes, et cette expression s'adresse à quelqu'un d'autre. Et il faut que l'autre personne soit capable de comprendre cet humour. Alors, le plus évident, c'est lorsqu'on parle à une personne étrangère qui ne comprend pas le français du tout, si on fait une blague, quelque chose de humoristique, eh bien, l'autre personne reste comme ça, ne comprend pas, c'est raté. C'est raté parce que lorsqu'on fait de l'humour, on attend que l'autre s'amuse de cet humour et éventuellement réponde. C'est une forme de conversation, de communication. Donc sur le mot humoristique, humour, on a l'adjectif humoristique... Voilà, et puis c'est vrai que l'humour, O-U-R, serait un mot d'origine anglaise, donc humor en anglais, qui peut-être est un peuple plus porté, plus enclin naturellement à une certaine forme d'humour, avec une façon de ne pas rire, de ne pas rigoler. C'est-à-dire un humour assez froid, comme ça, on peut dire flegmatique, hein, comme les Anglais. Alors on fait une blague comme ça, mais on garde le visage, vous savez, tout à fait froid. Et on regarde l'autre. Et l'autre comprend ou ne comprend pas. C'est presque une sorte de quiz de classe sociale, hein, de groupe social. Alors bon, en France, c'est un petit peu différent. L'humour est peut-être un peu moins fin, raffiné, que chez nos amis anglais. Et on s'amuse, on rigole. Bon. Il y a quand même plusieurs niveaux. Alors, avec Raymond Queneau, vous allez être servi, parce que l'humour est à toutes les pages, presque à toutes les phrases, et ça devient un exercice parfois difficile. Il y a des choses très simples, phonétiques, sonores, et puis d'autres choses très culturelles, approfondies, qui nécessitent une très très bonne connaissance du français, de la culture française, de l'histoire contemporaine, à l'époque de Raymond Queneau, hein, c'est les années 1950, et peut-être d'autres catégories d'informations. Alors, avant de commencer, je voudrais vous poser quelques questions. Qui a déjà lu Zazie dans le métro? Personne? C'est très bien. Comme ça, vous êtes en quelque sorte vierge. Hein. Alors, on peut planter, construire sur ce terrain. Qui a déjà vu le film de Louis Malle? Voilà. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et je vous en montrerai le début à la fin de cette séance. Le film de Louis Malle a eu beaucoup de succès. Il a été fait l'année suivante de la sortie du livre, donc 1960. Je crois qu'il est sorti en France sur les écrans, comme on dit, en 1961. Et il a eu beaucoup de succès à travers le monde. Je ne sais pas à quelle date il a été connu au Japon, mais je pense très rapidement. En plus, à cette époque, il y avait une sorte de mode, hein, de vogue au Japon, du cinéma nouvelle vague français. Et Louis Malle fait partie, bien sûr, de la nouvelle vague. Alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le film ou le nom du réalisateur, Louis Malle, vous pouvez aussi le connaître seulement en katakana, hein, et donc dans ce cas-là, il faut savoir que c'est 2L et pas 2R, par exemple. Alors, ce film a très bien marché, et je crois que, comme pour le livre, il a des qualités vraiment exceptionnelles. Louis Malle est un grand réalisateur, mais qui était encore très jeune, donc il aurait pu ne pas réussir, mais avec le texte qu'il avait, avec l'équipe qu'il avait, et les acteurs, hein, et puis la jeune actrice qui joue Zazie, qui s'appelle Catherine de Mongeau, qui doit être de la famille de Mylène de Mongeau, actrice qu'on a vue dans Bonjour Tristesse, hein, de Sagan. Voilà. Et il y avait tous les ingrédients pour faire vraiment un bon film. Beaucoup de couvertures de Zazie dans le métro du livre utilisent la photo, d'ailleurs, de la petite fille, mais pas celui-ci. Et dans un sens, c'est mieux. Alors, c'est mieux parce que, et ça c'est un peu dommage, on ne peut plus apprécier le texte sans voir les images du film. Ce n'est pas pareil pour tous les livres. Certains livres, des livres de Balzac par exemple, desquels on a fait des films, eh bien, si vous relisez le livre, vous ne verrez pas l'image de l'acteur, de l'actrice. Bon. Mais alors avec Zazie, c'est incroyable. Je n'ai pas réussi à lire une ligne du texte sans voir l'acteur, l'actrice. Tellement c'est puissant, hein, la réussite du film. Et dans un sens, c'est un petit peu dommage, parce qu'on se dit que le texte a des qualités propres. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore vu le film, ne vous pressez pas. Je vous montrerai un petit bout aujourd'hui pour que vous voyez l'ambiance, mais vous pouvez attendre quelques semaines pour le voir. Vous n'en aurez que plus de plaisir. Alors, ça c'était la première question. Deuxième question, qui a lu autre chose de Raymond Queneau? Voilà, exercice de style. Alors, exercice de style, on l'a lu, ou bien on a pu aussi en utiliser des morceaux dans des cours de français, dans des classes de français. Il y a des professeurs qui aiment bien s'amuser, et ils ont raison, je crois, avec certains styles, certaines pages, des exercices de style. Est-ce que c'était traduit en japonais, exercice de style? Oui. Alors ça doit être assez amusant en japonais, ouais. Aussi, hein, d'essayer des styles comme ça. Évidemment, la littérature, la langue japonaise se prête, hein, est capable de tous ces styles, même s'il peut y avoir des différences. Alors on va adapter en style, je ne sais pas, de spécialité tout à fait japonaise, hein, c'est possible. On y reviendra si vous voulez. D'autres choses de Raymond Queneau? Non? Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre de très connu? Il y a un autre roman avec lequel j'ai hésité aussi pour le cours, qui s'appelle Les fleurs bleues. Alors, c'est tout à fait différent de Zazie. Quoi qu'on retrouve évidemment le style de Raymond Queneau, mais l'histoire est plus mélancolique, avec une sorte de voyage dans le temps. Quelqu'un qui vit au Moyen-Âge et qui rêve qu'il est un personnage du XXe siècle. Mais c'est aussi le personnage du XXe siècle qui rêve qu'il est un homme du Moyen-Âge. Et alors on ne sait pas lequel est le vrai, s'il y a un vrai. Ça fait penser à cette pensée d'un penseur chinois qui disait, c'était quoi ? L'homme est un papillon qui rêve qu'il est un homme. Alors on ne sait pas qui rêve et qui. Hein. Bon, Queneau s'est inspiré en effet de cette pensée chinoise qui peut tout à fait se comprendre. Donc ce livre-là aussi est assez connu, et puis d'autres, bien sûr, ou par exemple, des chansons. Vous connaissez une chanson de Raymond Queneau? Alors il y en a une très 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 célèbre, chantée en 1950, je crois, par Juliette Gréco, qui s'intitule « Si tu t'imagines ». Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines, ça va que ça, va durer toujours la saison des uns, la saison des uns, saison des amours, ce que tu te gourres. Alors je vous la chante parce que on va retrouver les paroles, enfin pas exactement ces paroles, mais on va trouver des allusions à cette chanson dans le texte ici de Zazie dans le métro. Je crois que Queneau aimait bien mettre comme ça des petits bouts de texte des uns, des autres ou de lui-même pour voir si les lecteurs suivaient, hein, comprenaient l'histoire. Alors, pour vous aider aussi dans ce cours, j'ai préparé maintenant un document en ligne sur mon site internet, sur mon blog des cours. J'utilise un blog des cours. Donc il y a une seule adresse et puis vous allez vous débrouiller après. pour ne pas être, comment dire, dérangé dans notre travail, j'ai mis aussi un mot de passe qui est donc indiqué ici, comme Zazie, bien sûr, et puis tout attaché, hein, pas d'espace. Hein. Voilà. Alors, dans cette catégorie, vous trouverez un certain nombre de documents. Déjà, donc, un document s'appelle « Informations et sources », dans lequel vous pourrez voir d'abord des extraits de films, des émissions de la télévision des années 50-60, avec des extraits d'interviews de Raymond Queneau, en particulier au sujet de Zazie, qui sont dans le site de l'INA, I-N-A, Institut National de l'Audiovisuel, qui a la propriété en France, la propriété, la gestion, un peu comme une bibliothèque, une médiathèque, de toutes les émissions de la télévision française et de la radio aussi. Et puis, bon, d'autres documents. Il y a également un lien vers un site internet universitaire qui s'appelle le Fonds Queneau. Fonds, c'est le nom qu'on utilise pour rassembler des documents conservés, donc des documents, et ce sont les manuscrits et les tapuscrits de Raymond Queneau, des œuvres de Raymond Queneau, que l'on peut voir. Alors j'ai vérifié moi-même, j'ai fait quelques liens vers des documents manuscrits qui sont à l'origine de Zazie dans le métro. Alors ça, c'est vraiment si vous avez beaucoup de temps à perdre, mais hein, on ne perd jamais son temps. Ou bien pour, s'il y a parmi vous des étudiants à l'université qui souhaitent approfondir, eh bien, on a un accès direct et gratuit aux manuscrits de Queneau. Queneau a également fait partie d'un groupe littéraire français qui s'appelle l'Oulipo. Ça vous dit quelque chose, l'Oulipo ? Qu'est-ce que ça veut dire, l'Oulipo ? C'est un groupe qui a été fondé, je crois, dans les années 60 et qui veut dire ouvroir de littérature potentielle. Alors, ouvroir, c'est un mot bizarre, hein, ça vient du verbe ouvrir, comme quelque chose qui est ouvert, présenter, présentoir, ouvrir, ouvroir. Je crois qu'ils ont fait exprès, hein, d'utiliser un mot bizarre, ou peut-être de l'inventer, pour dire en fait société, hein, association de littérature potentielle. Alors, ce qui est important, bien sûr, c'est littérature et potentielle, avec l'idée que potentiel se rapproche de la pensée mathématique, c'est-à-dire de combinaison ou bien de contrainte. Alors, qu'est-ce que c'est une contrainte ? Eh bien, par exemple, vous écrivez un poème, et puis après l'avoir écrit, vous utilisez un dictionnaire pour changer tous les mots. Et dans votre dictionnaire, vous prenez la contrainte S plus 7. Alors, S, c'est le mot, par exemple, hein, lui-même, et vous cherchez le septième mot après, dans la liste du dictionnaire, et vous remplacez dans votre poème. Alors, vous allez avoir un nouveau poème extrêmement bizarre, qui n'a peut-être pas de sens, mais qui, parfois, produit du sens. Hein, une sorte de suite, disons, de réflexion des surréalistes dans les années 20, 30, 40 sur l'écriture automatique ou d'autres procédés de combinatoire, etc.
Dans l'Eglésis théorique, on trouve.
Voilà, on trouve S plus 7, en effet, dans un des exercices de style. Et on peut donc tout à fait le faire aussi en japonais, avec un dictionnaire de japonais, fait S plus 7.
Alors ça, c'est une contrainte parmi des dizaines ou des centaines que les membres de l'ouvroir de littérature contemporaine, de potentiel, ont inventé. Et ce groupe Oulipo existe toujours. Il a compté parmi ses membres, par exemple, Georges Perec, que l'on connaît aussi bien, ou bien un poète qui vient au Japon de temps en temps, qui s'appelle Jacques Roubaud, que vous avez peut-être déjà vu à l'université, et qui fait toujours partie du groupe de l'Oulipo. Alors, Raymond Queneau était un des membres fondateurs de l'Oulipo, de même que d'autres activités qui ont commencé pour lui, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, Raymond Queneau est né en 1903, donc presque comme le siècle, hein. On pourrait dire, comme Victor Hugo, ce siècle avait 3 ans. Pour Victor Hugo, c'était 2 ans. Mais bon, 1903, et il a eu une éducation, une jeunesse, ça, assez difficile. Il était d'une famille de province tout à fait modeste, et il a eu des velléités, des intentions littéraires. Il s'est rapproché de gens importants de cette époque, comme Raymond, André Breton, par exemple, et les relations étaient un peu difficiles jusqu'à ce qu'il devienne célèbre lui aussi. Ça a commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale, un premier livre chez Gallimard, qui a été remarqué, disons, dans le monde littéraire. Et puis c'est vraiment après la guerre, grâce à la chanson et d'abord aux exercices de style en 1947, je crois, et la chanson, si tu t'imagines, en 1950, en plein milieu de Saint-Germain-des-Prés, Juliette Gréco, Jean-Paul Sartre, etc. Bon, Raymond Queneau est devenu d'un seul coup une personnalité remarquable, célèbre, alors que les personnes célèbres du surréalisme, comme André Breton ou Georges Bataille, avaient un petit peu moins d'influence. Et c'est le moment où Raymond Queneau a eu plus de succès. C'était pas obligatoire, hein, mais ça s'est produit comme ça. Et bien sûr, Zazie dans le métro est arrivé en 1959 pour provoquer un succès encore plus important. Alors, ce succès de Zazie dans le métro a beaucoup surpris quand même Raymond Queneau. Depuis longtemps, il écrivait, il n'avait pas beaucoup de succès. Bon, un écrivain souhaite toujours avoir du succès, mais ça ne marchait pas tellement. Bon, il s'est habitué, il s'est adapté. Et puis, là, d'un seul coup, ça marche très bien. Alors, vous verrez dans une interview qui est la première des vidéos de Lina, sur la page de Lina, dont vous trouverez le lien dans ce document. On le voit en 1959, oui, donc c'est juste après la sortie du livre, à la télévision, donc c'est noir et blanc, bien sûr, et il est tout timide, il se tord les mains, il fait comme ça avec ses bras, ça fait du bruit avec le micro qui est accroché comme ça. Et puis petit à petit, ça dure 5 ou 6 minutes, il est un petit peu plus à l'aise, et il finit par plaisanter. La personne qui l'interview, très grand journaliste de l'époque, qui s'appelle Pierre Dumayet, lui demande, pour finir, « Alors, monsieur Queneau, quelle est l'importance du métro dans votre livre ?» Alors Raymond Queneau dit « Ah, l'importance du métro !» souterraine. Et évidemment, c'est de l'humour, puisque le métro est souterrain, il est en dessous du livre, on ne le voit pas dans le livre. Et bien sûr, l'importance est souterraine, c'est-à-dire qu'elle est dans les structures, dans la construction du livre. Le métro est cette chose dont on parle tout le temps et qu'on ne voit jamais. Vous connaissez une personne dont on parle tout le temps et qu'on ne voit jamais? Il y a une célèbre musique. Godot, mais Godot c'est un petit peu plus moderne. L'Arlésienne. Vous connaissez l'Arlésienne de Bizet? Alors Bizet c'est le créateur de Carmen. L'Arlésienne de Bizet, c'est une jeune femme dont on parle, tout le monde en parle pendant l'opéra, mais on ne la voit jamais. Alors, voilà, c'est devenu une sorte de légende. Et le métro joue un peu ce rôle hein, de l'Arlésienne dans le livre. Et puis, on ne sait pas si Raymond Queneau a été inspiré ou gêné. En effet, quelques années avant, il y a eu un livre qui a été remarqué, qui a été assez célèbre à cette époque, aujourd'hui plus du tout, un livre qui s'appelle « L'enfant du métro ». Qui date, je crois, de 1947, à moins que ce soit 1943... Enfin, l'un ou l'autre, hein, on pourra le retrouver à l'occasion. Et j'ai mis un lien d'ailleurs dans le document. Et cet enfant du métro, c'était l'histoire d'un enfant qui est né dans le métro, qui vit dans le métro, avec des choses très poétiques. Et puis des inventions au sujet des stations de métro. Chaque station aurait une ambiance, une vie. Avec des peintures qui étaient faites par la sœur de l'auteur. Alors c'était deux sœurs, l'une a écrit, l'autre a peint, et le livre a eu pas mal de succès. Alors, est-ce que Raymond Queneau a eu la même idée que ces deux auteurs? Et après il s'est dit, je ne peux pas le faire, puisque c'est déjà fait. Et alors, un peu sur le mode de l'Oulipo, c'est-à-dire, je vais faire le contraire. Alors, dans l'enfant du métro, c'est un petit garçon, j'ai dit petite fille, hein, petit garçon qui est né dans le métro, eh bien, Raymond Queneau va choisir une petite fille qui ne va jamais dans le métro. Hein, c'est une sorte de contrainte à l'envers. Bon, donc on peut dire que ça l'a peut-être inspiré un peu aussi. Est-ce que vous avez des questions sur ces généralités? Questions sur Queneau, questions sur l'époque du livre. Après, on va commencer le texte directement. Alors, dans ce livre, il y a des centaines, peut-être des milliers, de jeux de mots, de plaisanteries. Je vais essayer de vous en présenter, de vous en expliquer un certain nombre, mais il est tout à fait possible et même normal que je n'explique pas certaines choses qui vous interrogent. Alors dans ce cas-là, n'hésitez pas à me poser des questions, à participer au cours. Et puis on va essayer de faire ensemble des hypothèses hein, de temps en temps. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire hein, par exemple, d'où qui pue donc tant, ce mot célèbre qui ouvre le texte, qu'est-ce que ça veut dire? N'hésitez pas à poser des questions pendant le cours ou bien la semaine suivante. Ça sera plus animé. Et puis, ça vous évitera d'être frustré. Oh, on n'a pas expliqué, j'ai pas compris ça, c'est dommage. Ceci dit, il y en a tellement que je sais pas si on va y arriver. Hein. Alors, le plan de travail. Pour aujourd'hui, je vous propose de regarder le chapitre 1. Et pour les semaines suivantes, je vous propose de lire à l'avance à la maison chaque fois deux chapitres. Donc, la semaine prochaine, c'est 2 et 3. La semaine suivante, c'est 4 et 5. La semaine suivante, c'est 6 et 7. Oui, ça va? Tout le monde sait compter? Bon, c'est de l'humour, hein? Et bien sûr, je rappellerai chaque semaine où on en est, si vous hésitez. Alors, le titre « Zazie dans le métro » nous donne deux ou trois informations. D'abord, le nom ou prénom Zazie n'existe pas. À l'époque, la sortie du livre, le prénom Zazie n'existe pas. Et pourtant, tout le monde le reconnaît comme un prénom de fille, un prénom féminin. Il n'y a pas d'hésitation, je crois, de gens de l'époque qui, dans une librairie, se seraient demandé « Zazie, qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est automatiquement, on pense à un prénom. Pourquoi ? Eh bien, peut-être parce que c'est ce qu'on appelle, non pas un prénom, mais un diminutif. Diminutif, ça veut dire forme plus courte et parfois différente d'un prénom. Alors, par exemple, pour Patrick, qui est mon prénom, souvent on dit Pat. J'aime pas tellement que des gens m'appellent Pat. Hé, Pat ! Ce qui ça fait un peu américain, hein, Pat Garrett. Bon, bah, c'est pas ma culture. Enfin, c'est possible. Christine, on va l'appeler Titine. C'est pas toujours le début, hein, ça peut être la fin, ça peut être la reprise de la fin. Ça peut être aussi une déformation. Isabelle, pour jouer, des amis vont l'appeler Isabeau ou Zabo. Ou Zabou. Il y a une actrice française qui s'appelle Zabou. Zabou Breitman. Je ne sais pas si son prénom vient d'Isabelle, mais Zabou n'existe pas comme prénom. Hein, c'est un prénom d'actrice qui a été inventé. Alors, on peut penser que Zazie est un diminutif de Isabelle. On n'est pas sûr, hein. Quelqu'un a dit aussi quelque part sur Internet, c'était un diminutif de Françoise. J'y crois pas beaucoup. Hein. Isabelle, Zazie. Vous voyez, on trouve le ZA aussi, et puis le I ici. Alors, il y aurait eu comme ça un changement dans l'ordre des sons. Pourquoi pas ? Alors peut-être aussi pour les lecteurs de l'époque, hein, donc la fin des années 50, il y a la possibilité d'entendre dans Zazie un ou deux autres mots qui existaient déjà et qui ne sont pas un diminutif. Donc ça on appelle un diminutif, hein, de diminuer. Mais on pourrait y voir aussi une relation, donc question, hein, avec Zazou ou bien Zizani. Il n'y a pas des milliers de mots français qui commencent par Z. C'est dans le dictionnaire, hein, une petite catégorie de mots qui commencent par Z. Zazou ou Zizani. Alors bon, Zizani est un mot assez ancien qui veut dire la confusion. La confusion, la pagaille, c'est la Zizanie. C'est vrai que l'arrivée de Zazie dans la famille de Gabriel, c'est un petit peu, ça dérange un peu la vie. Enfin, la vie de Gabriel, on ne la connaît pas finalement. Est-ce qu'elle est dérangée ou pas dérangée ? Je n'en sais rien. Mais enfin, c'est possible. Oui ?
Par la phonétique, il y avait une actrice
plutôt famille Zaza Grabo en septembre.
Zaza. C'est vrai. Et qui pouvait être aussi un diminutif de Isabelle, Zaza. Donc on peut le mettre aussi parce qu'en effet, si Zaza comment Gabor, c'est ça? Je crois que c'est ça, hein, Gabor.
C'est une adresse plutôt érotique.
Plutôt pas très habillée. Dans le style moins intellectuel que Juliette Gréco. Mais bon, il en faut aussi. Hein. Alors, donc, Zizanie, pour montrer un peu la désorganisation, hein, les problèmes que pose Zazie, peut-être une image donc, d'un non-connu. Hein, donc, on reconnaît quelque chose. Et puis, le plus intéressant d'un point de vue historique, c'est le mot zazou. Qu'est-ce que c'est qu'un zazou ou les zazous? Ce sont des jeunes gens, plutôt jeunes garçons, mais aussi des jeunes filles, des années 40, et en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. Le mot a été formé, je crois, en 1942 ou 43, pour désigner des jeunes gens qui sont très influencés par le jazz américain. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, le jazz américain est en quelque sorte interdit par les autorités allemandes. C'est quelque chose de dégénéré. Hein, les Allemands ont nommé l'art juif, l'art nègre, des arts dégénérés. Et beaucoup d'autres artistes, d'ailleurs, étaient considérés comme dégénérés. Alors, bien sûr, dégénéré, ça veut dire qu'il descend, hein, dans le genre, dans la qualité humaine, alors que les Allemands, enfin, c'est pas tout à fait les Allemands, hein, c'est plutôt les nazis. Les nazis avaient décidé, pour des raisons qui leur étaient personnelles, hein, intellectuelles ou autres, qu'il y avait un art dégénéré. Pas seulement un art, il y avait des races dégénérées, et donc race et genre ont une relation, bien sûr. Et de l'autre côté, pour les nazis, il y avait la possibilité d'un surhomme, hein, un homme véritable, entre guillemets, de l'avenir, voilà. Donc il ne serait pas juif, pas noir, etc. Alors bien sûr, les noirs américains, vous le savez, ont inventé le jazz à partir de formes musicales qui viennent de l'Afrique, qui viennent du sud des États-Unis, bon, une sorte de mélange, hein, de melting pot qui se produit, et le jazz apparaît au début du XXe siècle, hein, dans différentes formes. On trouve les premières influences de jazz en France dans les années 20, dans les années 30. Les surréalistes, mais aussi Jean-Paul Sartre, dans La Nausée, montrent bien son influence par le jazz, quelque chose de nouveau. Alors pour nous aujourd'hui, ça peut paraître bizarre, hein. On est plutôt rock'n'roll, électronique, bon, mais il faut se plonger dans cette époque pour voir que c'était une grande nouveauté. Mais ce qui était nouveau aussi, c'était que la musique pouvait être enregistrée et écoutée. Alors, à la radio, à la maison, avec des cylindres ou bien des disques, comme ça, hein, c'était quand même des choses nouvelles. Et donc le jazz pouvait être connu dès les années 30 et bien sûr dans les années 40. Alors, l'interdiction par les Allemands était bien sûr contournée ou bravée, comme on dit, par des jeunes gens qui en plus avaient pris un style de vêtements un petit peu à l'américaine, avec des pantalons de jeans, ou bien à l'anglaise, anglaise ou américaine, très différent bien sûr, mais on les reconnaissait. Ils avaient un ou deux clubs dans Paris, qui étaient les clubs de Zazou. Et donc on allait là pour danser du jazz. Alors bien sûr, les Allemands avaient interdit, mais ça continuait. Et un journal c'est un journal tout à fait pro-allemand, pro-nazi, qui s'appelle La Gerbe. Une gerbe, ce sont des épis de blé qui sont attachés ensemble hein, pour montrer la force de la nature, etc. Bon. Dans ce journal, on trouvait des insultes hein, très très régulièrement contre les Azous. À l'époque, on pouvait écrire même qu'il faut les tuer, on appelle au meurtre hein, dans le journal contre les Azous. Donc il y avait aussi des batailles de rue avec des Azous. Alors, le mot Zazou, après la guerre, est resté comme un style. Il n'y avait plus de bataille hein, entre des groupes. Et puis, la musique pop a commencé, disons, à se préparer un petit peu. Hein, jazz, pop, tout ça est arrivé en même temps. Et donc, les Zazous étaient en quelque sorte les précurseurs, hein, c'est-à-dire avant ceux de Saint-Germain-des-Prés, qui vont eux aussi aller danser dans les clubs de Saint-Germain. Il y avait autre chose à dire sur les Azous ? Il me semble que oui. Ah oui, c'est ça, c'est le mot lui-même, le mot Zazou. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, le mot Zazou a été formé en France sur le titre d'une chanson. Une chanson d'un chanteur américain qui s'appelle Cab Calloway. Et dont une chanson s'intitulait Zaz Zouza. Zaz Zouza, bon, vous pourrez l'écouter aussi sur YouTube. J'ai mis un lien dans le texte. Zaz Zouza. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire Zazouza ? Ben, ça ne veut rien dire du tout. 1933, hein, donc c'est pas nouveau. Ça ne veut rien dire. Ce sont juste des bruits qu'on fait avec la bouche, c'est-à-dire des onomatopées. Onomatopées qui sont des bruits qui forment des mots, hein, des bruits qui forment des mots, comme en japonais, hein, vous avez beaucoup d'onomatopées qui deviennent des formes verbales, nominales, guzu guzu, par exemple, sala sala, etc. Ces onomatopées, en France aussi, peuvent devenir des mots avec un sens très précis. Mais dans le cas de Zazouza et de ce style, de cette façon de chanter qui a été inventée dans les années 20 ou les années 30 par des jazzmen américains, ça n'a pas de sens. C'est pour faire du rythme et pour faire de la chanson. Alors vous connaissez bien sûr de Marilyn Monroe. Eh bien voilà, Marilyn Monroe elle aussi un petit peu plus tard hein, quand même, pour une blanche blonde. C'était bien. Tout ce style d'expression musicale avec des onomatopées s'appelle en anglais le scat. S-C-A-T. J'ai vérifié, ça se trouve dans Wikipédia. Et vous savez, Wikipédia, c'est très pratique parce que vous cherchez un mot en français ou en anglais, et puis vous regardez dans la colonne de gauche, hein, et il y a peut-être le japonais, pas toujours, hein, et s'il n'y a pas le japonais, vous pouvez le faire. Hein, vous pouvez vous inscrire à Wikipédia pour écrire vous-même des articles. C'est le principe même de Wikipédia. Tout le monde peut écrire selon ses connaissances. Et ça marche plutôt bien quand même, hein, dans l'ensemble. Voilà donc la formation, excusez-moi si ça prend du temps, du mot Zazi lui-même, tel que les personnes de cette époque, de 1959, ont pu ressentir quelque chose en lisant sur la couverture d'un livre sans image, hein, de la collection Gallimard, qu'on appelle la collection blanche, qui est plutôt beige, pas notre problème, et où c'était marqué Zazie dans le métro. Bon, le deuxième mot, c'est dans le métro, c'est beaucoup plus simple, tout le monde connaît le métro, et ça existe déjà à Paris depuis plus de 50 ans, hein, à l'époque du livre. Le métro commence tout à fait au début du XXe siècle. Alors, Zazie dans le métro est donc un titre, on pourrait dire, précis, qui donne un cadre presque géographique, presque historique, et en même temps, un personnage principal. Donc, c'est un titre qui a une bonne valeur pour des lecteurs. Ce n'est pas un titre mystérieux, c'est un titre précis. On peut s'attendre donc à une écriture précise, une écriture compréhensible par tout le monde. Et on tourne la page, et qu'est-ce qu'on trouve au début du texte ? D'où qui put donc tant, se demanda Gabriel excédé. Alors on va lire la suite, hein, pour voir la relation qu'il peut y avoir et comprendre ce mot entre guillemets. D'où qui put donc tant, se demanda Gabriel excédé. Pas possible, il se nettoie jamais. Dans le journal, on dit qu'il n'y a pas 11% des appartements à Paris qui ont des salles de bain. Ça ne m'étonne pas, mais on peut se laver sans. Tous ceux-là qui m'entourent, ils doivent pas faire de grands efforts. D'un autre côté, c'est tout de même pas un choix parmi les plus crasseux de Paris. Il n'y a pas de raison. C'est le hasard qui les a réunis. On ne peut pas supposer que les gens qu'attendent à la gare d'Austerlitz sentent plus mauvais que ceux qu'attendent à la gare de Lyon. Non, vraiment, il n'y a pas de raison. Tout de même, quelle odeur! Ce premier paragraphe se présente comme un ensemble de paroles. Hein, on entend quelqu'un qui parle et qui commence à parler en disant donc d'où qui pue donc tant. Mais alors, d'où qui pue donc tant, c'est un mot qui n'est pas dans le dictionnaire, que je n'ai pas appris à l'école, et quand je le lis, je ne le comprends pas. Mais quand je l'entends sans le lire, je peux comprendre quelque chose. Quelqu'un me dit, comme ça, je ne vois pas le mot, hein, quelqu'un me dit, mais d'où qui pue donc tant, je comprends quelque chose. Qu'est-ce qu'on comprend? Quel est le verbe principal? Et puis vous avez le reste, hein, qui vous dit, oui, alors ces gens ne se nettoient pas, on peut se laver, c'est pas les plus crasseux, est-ce qu'ils sont sales ou qu'ils sont pas propres? Et tout de même, quelle odeur?
Puer.
Alors, puer, le verbe puer. D'où qui pue donc tant? D'où qui pue donc tant? Donc, le verbe puer, et alors si vous avez le verbe puer sous la forme pu, hein, et puis ensuite vous avez qui pue. Donc là, vous êtes dans la gare, hein, vous êtes arrivé là comme ça, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, hein, qu'est-ce qu'il fait là dans la gare, et puis alors autour de lui il y a d'autres gens. Hein, et puis alors il se demande. D'où qui pue donc tant? D'où? D'où, c'est-à-dire de où? D'où vient cette odeur? Et en même temps, il y a qui? C'est-à-dire qui? Dare. Donc c'est doko et dare en même temps. C'est pas correct, hein. Grammaticalement, ça marche pas du tout. Et puis alors, donc, tant. Tant, ça veut dire beaucoup. Hein, c'est une expression superlative. D'où qui pue donc autant. Alors, d'où et qui, hein, c'est-à-dire où et qui, est-ce que il y a quelqu'un qui pue autant? Ou alors, c'est plusieurs personnes, ou alors c'est tout le monde. Donc, on peut comprendre d'où qui pue donc tant, pour les Français, hein, automatiquement, comme Où et qui pue autant, aussi fort? Qui est-ce qui pue aussi fort? Et d'ailleurs, juste après, Gabriel extirpa de sa manche, donc il sort de sa manche, comme ça, un peu comme un magicien, sort de sa manche, une pochette de soie couleur mauve et s'en tamponna le tarin. Alors bon, pour tarin, vous êtes obligé de passer par le dictionnaire. Le dictionnaire vous dit que c'est un mot argotique qui veut dire le nez. Donc ça veut dire qu'il a toujours sur lui, dans sa poche, ou dans sa manche, ou dans sa pochette ici, un tissu de soie qui est parfumé, déjà à la maison. Peut-être vous faites ça aussi, hein, de temps en temps. Et quand vous êtes dans un endroit où ça sent pas très bon, vous sortez votre pochette et puis, ah, ça fait du bien. Hein, ça aide à supporter la situation. Mais évidemment, pour un homme, puisqu'il s'appelle Gabriel, c'est un petit peu bizarre. Hein. On imagine assez bien une femme un petit peu délicate, qui n'aime pas les odeurs trop fortes. Bon, elle va sortir son mouchoir. Pour un homme, c'est un peu bizarre. Donc, on va avoir petit à petit des informations sur ce personnage qui s'appelle tout de suite Gabriel. Alors, excédé, ça veut dire un peu en colère, hein, qui n'est pas content, qui sort un peu de son calme pour exprimer quelque chose. Mais, excédé, mais d'où qu'il pût donc tant, se demanda Gabriel. Se demanda, ça veut dire à l'intérieur de sa tête. Hein, il ne parle pas. Et donc, tout le paragraphe qui suit est dans sa tête. C'est ce qu'on appelle le monologue intérieur. Il se parle à lui-même. Alors, ce monologue intérieur, c'est très important dans la littérature parce que on peut dire quand même que ça apparaît au XXe siècle. Avant, ça n'existe pas tellement. Parfois, on nous dit ce que pense un personnage. Chez Flaubert, chez Balzac, d'autres écrivains, bien sûr. Hein, pas seulement en littérature française, mais dans la littérature japonaise aussi, bien sûr. Mais on n'a pas encore cette forme d'expression, en quelque sorte, orale, comme quelqu'un qui parle comme dans sa tête, qui parle dans sa tête. Donc on appelle le monologue intérieur. On va le trouver d'une façon très importante à partir de James Joyce, par exemple. James Joyce va utiliser ce monologue intérieur dans Ulysses, donc en français Ulysse, où un personnage s'exprime tout le temps, et parle assez peu à d'autres personnes. Hein. C'est d'abord à l'intérieur de sa tête. Mais comme on se parle, comme on parle. Ce monologue intérieur, en France, il devient important aussi pour beaucoup d'écrivains, et il va devenir quelque chose d'important dans un mouvement littéraire qu'on appelle le nouveau roman, justement dans les années 1950, donc tout à fait à la même époque. Alors, par exemple, Nathalie Sarraute
écrit des livres à la même époque que Raymond Queneau, et elle utilise aussi le monologue intérieur. Et pourtant, dans la critique littéraire, dans les livres d'histoire littéraire, on hésite beaucoup à rapprocher Raymond Queneau du nouveau roman. Et bon, c'est une histoire bien française, hein, à cause des éditeurs. Parce que Gallimard, la maison d'édition Gallimard, ne souhaite pas être associée au nouveau roman, parce que c'est une étiquette un peu expérimentale, dangereuse, qui fait peur. Bon. Et de l'autre côté, une autre maison, qui s'appelle Minuit, hein, les éditions de Minuit, est, elle, tout à fait associée au nouveau roman. Elle porte l'étiquette nouveau roman, ce qui peut être un peu gênant aussi pour certains écrivains. Donc, je n'insiste pas sur l'histoire littéraire, mais quand même, ça compte, hein, ça participe. Lorsque Queneau écrit ça, il se demande dans quel style je vais écrire. Et alors, j'ai regardé un petit peu les manuscrits avant Zazie, sur le site internet du Fonds Queneau. Eh bien, dans les premières pages que Queneau écrit à la main, il n'y a pas du tout de monologue intérieur. Il avait commencé à faire un roman tout à fait classique, dans une gare, quelqu'un attend, etc. Ah non. Il y a un moment où la forme, le choix de la forme devient très important. Alors bon, dans le mot « d'où qui pue donc tant », on reconnaît une sorte de phrase orale, et on va dire que ça correspond à une figure de style. Ce qu'on appelle les figures de style, comme la métaphore, la comparaison, l'analogie, enfin il y en a beaucoup, parfois avec des noms très très compliqués. Bon, on n'est pas obligé de les nommer toujours. Mais dans D'où qui pue donc tant, qu'est-ce qui se passe du point de vue de la langue française? Alors, si je vous dis qu'est-ce qui se passe et je vous demande de l'écrire, en bons étudiants de français, vous allez écrire qu'est-ce qui se passe. N'est-ce pas? Hein, si je vous demande d'écrire qu'est-ce qui se passe, vous allez écrire ça. Mais dans Zazie dans le métro, hein, ou Queneau, pourrait écrire qu'est-ce qui se passe. C'est pareil.
C'est ça.
Bon, évidemment, c'est pas pareil. On va dire que cette forme est une forme phonétique. Ça ressemble d'ailleurs même à la phonétique, parce que si on écrivait vraiment en l'alphabet phonétique, API, International Phonetic Alphabet, on écrirait qu'est-ce qui se passe. Voilà. Parce que ici, c'est un E large, hein, qu'est-ce. Voilà, qu'est-ce qui se passe. Enfin, c'est presque pareil. Alors, d'où qui pue donc tant, eh bien, ça donne pareil. Hein. Un petit peu différent quand même, hein. En phonétique, ça serait voilà, en phonétique c'est comme ça. Alors on reconnaît quand même d'où qui, hein, ça change pas. Ça c'est le U bien français, hein, d'où qui pue, et puis donc, ça c'est le on, un nasal avec le petit niolo comme ça, donc tant. Voilà, d'où qui pue donc tant. Alors, on n'est pas très loin, hein, on n'est pas très loin de la phonétique. Bien sûr, Raymond Queneau n'a pas envie de montrer à ses lecteurs quelque chose de scientifique, mais l'écriture phonétique comme ça est presque scientifique. C'est presque comme si on avait un appareil qui écrivait les sons pour le lecteur. Donc, c'est une sorte de
onomatopée, c'est-à-dire bruit que l'on a entendu, mais qui forme une phrase. On pourrait dire aussi que les mots qui forment que est ce qui se passe, qui sont tous des mots différents, ça c'est un verbe, ça c'est un pronom, ça c'est etc., ils sont rassemblés et il n'y a plus de fonction. Où est le verbe, où est le... Bon, ça a disparu et ça fait une sorte de bloc. Alors on pourrait dire aussi amalgame. Amalgamer, ça veut dire mettre plusieurs choses ensemble et en quelque sorte fondu ensemble. Hein. Melt, melting, melting pot. On va le fondre, amalgame. Alors vous pouvez vous amuser hein, quand vous écrivez des emails à vos amis. Vous pouvez leur écrire en français comme ça, qu'est-ce qui se passe vous verrez si vos amis comprennent ou ne comprennent pas. C'est de l'humour, hein, vous leur direz, hein, c'est de l'humour. Bon, voilà. Le thème de ce premier paragraphe, c'est la propreté. Gabriel a l'impression que les gens ne sont pas propres. C'est-à-dire ils sentent mauvais. Pourquoi ils sentent mauvais? Parce qu'ils ne se lavent pas. Et il va faire un raisonnement, c'est-à-dire d'où qui pue donc tant, ça a l'air un peu bizarre, un peu bête, mais après, on découvre un personnage qui pense, et qui pense plutôt bien, logiquement. D'abord, il est à la gare d'Austerlitz. Il dit, bon, il y a là des gens, ça sent pas très bon. Mais ces gens-là, ils sont pas venus exprès pour m'embêter. Ils sont là par hasard. Et si on va dans une autre gare, à la gare de Lyon, ça doit être pareil. Il n'y a pas de raison pour que ce soit différent. Donc à Shibuya ou à Yulakucho, hein, ça ne va pas être très différent. Simplement, peut-être que ça sent mauvais aussi. Alors on peut se demander, ce Gabriel, est-ce qu'il a l'habitude d'être au milieu de la foule et des gens? Peut-être que pour lui, c'est un peu nouveau, un peu rare. On n'en sait pas plus. Hein, on verra petit à petit, pour faire le portrait de Gabriel, ça va venir petit à petit. Ce thème de la propreté, il est bien connu. Et des études aujourd'hui très sérieuses montrent bien que, en effet, les Français ne sont pas très propres. Encore aujourd'hui. Alors, déjà au 19e siècle, au 18e, au 19e, c'était un sujet de plaisanterie des Anglais. Les Anglais étaient plus propres depuis longtemps que les Français, et quand ils venaient en France, ils trouvaient que ça sentait mauvais partout. Vous savez qu'à l'époque de Louis XIV, il n'y a pas de toilette. On est habillé comme un roi, mais on fait caca n'importe où dans l'escalier. Hein, c'est ça. Bon, pour nous, c'est tout à fait incroyable. Et à l'époque de Louis XIV, les Japonais étaient déjà très propres, hein, je crois. Il faudrait vérifier. L'habitude du onsen, du ofuro, c'est quelque chose qui est très 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 ancien chez les Japonais. C'est pas nouveau. Alors, chez les Français, bon, ça marche pas très bien. Alors, on dit que c'est peut-être à cause de la religion. La religion catholique interdit, en effet, d'accorder trop d'importance à son corps, et en particulier aux zones sexuelles, génitales. Donc, si on se lave, d'abord, on a une chemise, et on se lave en dessous, on regarde pas. Voilà, alors, évidemment... ça fait qu'on n'est pas très propre. Vous connaissez tous le tableau célèbre de Marat, assassiné dans sa baignoire pendant la Révolution française. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de tableaux, de peintures, où on peut voir une baignoire. C'est pas du tout courant. Alors que si on cherche dans l'art japonais ou dans l'art chinois, on trouvera beaucoup de dessins, de gravures de gens qui se lavent dans des hôtels boulots ou au fouleau à la maison. C'est pas du tout rare. Bon. Encore aujourd'hui, il y a des statistiques qui montrent que la majorité des Français, et en particulier des hommes, ne se lavent, comment dire, ne prennent un bain ou une douche que un jour sur trois ou deux. Et si on parle de sous-vêtements, changer de sous-vêtements, il y a beaucoup d'hommes qui ne changent de slip qu'une fois par semaine. Ce sont des statistiques d'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas seulement les Français, hein. On pourrait en trouver d'autres, même chez les Japonais. Mais, en général, d'un point de vue statistique, ce que dit Gabriel est tout à fait vrai. Et il est fort possible que Raymond Queneau ait vraiment trouvé un journal dans lequel il y a une information selon laquelle 11% des appartements à Paris ont des salles de bain. Avoir une salle de bain, c'est moderne. Mais ça veut dire aussi, on change un petit peu de sujet, la transformation de la société qui va être très importante dans les années 1950-1960. La société française va changer complètement. Vous pouvez le voir dans beaucoup de films, mais en particulier d'une façon très amusante et facile à comprendre dans les films de Jacques Tati. Alors même la suite des films de Jacques Tati est une transformation de la société, puisque les premiers films sont un peu campagnards, hein, les vacances, jours de fête, etc. Et puis à la fin, on est tout à fait dans la ville industrielle, bureaucratique, etc. Avec Playtime, par exemple. Alors ça, c'est vraiment l'histoire de la transformation de la société française, qui doit être à peu près en même temps que la japonaise, hein, après la Seconde Guerre mondiale, avec le développement. Je vous invite à voir un film de Kurosawa qui s'appelle Dodeskaden. Il n'y a pas beaucoup de Japonais qui connaissent Dodeskaden parce qu'on n'aime pas beaucoup voir cette période de l'histoire du Japon. Mais Dodeskaden est vraiment un film intéressant pour voir que après la guerre, le Japon était vraiment dans un état très, très difficile. Et la reconstruction allait prendre un certain temps, devait prendre un certain temps. Voilà donc cette histoire de la transformation de la société française, qui commence ici avec le problème donc de l'hygiène et des installations sanitaires. C'est le mot qu'on utilise pour parler de, des installations modernes, en particulier de l'utilisation de l'eau. Donc l'évier dans la cuisine, le lavabo dans la salle de bain, la machine à laver, les toilettes. Maintenant, pour les Japonais, c'est avec le washlet, hein, automatiquement. Mais pour les Français, ça n'existe pas, le washlet. Quand on leur dit ça, ils ne comprennent pas la nécessité. Nécessité, entre guillemets. Hein. Il y a, à ma connaissance, un ou deux magasins dans Paris qui vendent des washlets. Très, très chers, comme un truc extraordinaire. Bon, c'est comme ça. Ça fait partie du décalage de l'hygiène. Et puis, on va le retrouver un petit peu plus loin. Où est-ce que ça se trouve? Au début du chapitre 3, je crois. Donc, je vous le montre tout de suite. Voilà, donc à la page 30. Au début du chapitre 3... Vous n'avez pas la même édition?
Non, mais je me suis trompée le livre.
Ah oui? Ah, c'est le commentaire. Ah, Zannen. Mais c'est intéressant aussi. Alors, le début du chapitre 3. Dans un coin de la pièce, Marceline, Marceline, c'est la femme de Gabriel à la maison. Marceline avait installé une sorte de cabinet de toilette, c'est pas un vrai. Une table, une cuvette, un broc. Un broc, c'est-à-dire un pot dans lequel il y a de l'eau. Tout comme si ça avait été une cambrousse reculée. Cambrousse, c'est un mot d'argot pour dire la campagne. Inacapoli. Tout à fait comme à la campagne. Comme ça, Zazie serait pas dépaysée. C'est-à-dire, Marceline a pensé que pour Zazie, il fallait faire comme c'était chez elle, c'est ce que pense Marceline, comme Zazie vient de la campagne, eh bien, on va lui mettre comme à la campagne. Mais Zazie était dépaysée. Elle pratiquait le bidet fixe vissé dans le plancher et connaissait, pour en avoir usé, maintes autres merveilles de l'art sanitaire. Alors ici, vous voyez, j'ai mis installation. On pourrait mettre conditions matérielles, mais art, c'est un peu exagéré, de la part de Raymond Queneau, l'art sanitaire. On pourrait dire, pour les Japonais, l'art du ofuro. Bon, plutôt c'est quelque chose de banal. Écœurée par ce primitivisme, elle s'humecta, se tamponna un peu d'eau ici et là, plus un coup de peigne, un seul, dans les cheveux. Et ensuite, elle sort. Donc, voilà, à propos du début du chapitre 3, on peut revenir au début du chapitre 1. Les conditions sanitaires, les installations sanitaires, font partie du changement de la société, de la transformation de la France des années 50-60. Et on va voir beaucoup d'autres changements. Zazie dans le métro est une sorte de catalogue des changements de la société tels que Raymond Queneau les vit tous les jours, il vit ça tous les jours, et il voit dans la rue des gens qui s'adaptent plus ou moins bien aux changements de la société. Aujourd'hui, on pourrait faire la même chose avec Internet et Hikari Fiber, qui change, qui ne change pas, à quel moment, pourquoi pas. Bon, c'est le changement de la société numérique. On dit aujourd'hui digital communities, etc. Alors on va essayer d'aller un petit peu plus vite, maintenant qu'on a réussi à démarrer. Qu'est-ce qui pue comme ça, dit une bonne femme à haute voix. À haute voix. Donc c'est différent, parce que Gabriel, lui, c'était « se demanda » dans sa tête. Mais d'un seul coup, à côté, il y a une femme qui dit « qu'est-ce qui pue comme ça ?» Du coup, c'est normal, c'est écrit normalement. Elle pensait pas à elle en disant ça. Elle n'était pas égoïste. Elle voulait parler du parfum qui émanait de ce monsieur. Monsieur n'est pas tout à fait comme dans le dictionnaire, mais il est plus proche de la façon de parler. Parce que dans le dictionnaire, c'est marqué monsieur. Monsieur, ça vient du vieux français, mon, sœur, sieur, en anglais mister, my sir, c'est le même. Mais évidemment, alors, aujourd'hui, on dit aux enfants, vous écrivez monsieur et vous prononcez monsieur. Ah bon? Bon, alors, les étudiants aussi, chaque année, on a des nouveaux étudiants en première année, il faut leur expliquer ça. C'est bizarre, c'est bizarre le français, Cochine. Bon, il faut expliquer. Alors donc, quand même, la façon d'écrire phonétique de Raymond Queneau nous pousse à articuler d'une façon un peu différente, c'est-à-dire... Elle voulait parler du parfum qui émanait de ce monsieur. C'est-à-dire, monsieur est montré comme différent, assez différent d'autres hommes. Ça, petite mère, répondit Gabriel, qui avait de la vitesse dans la répartie, c'est Barbouze, un parfum de chez Fior. Fior, vous entendez Dior, on peut entendre Dior. Mais comme le dit la petite note, hein, vous avez une petite note numéro 1, parodie avec des noms de parfums, barbouze. Mais barbouze, ce n'est pas un nom de parfum. Dans le dictionnaire, ça veut dire un espion. Plutôt un espion qui fait des bêtises. C'est pas James Bond. Hein. James Bond est trop fort. Hein. Il n'est pas barbouze. Un parfum de chez Fiore. Alors donc on entend Dior, mais on entend aussi un petit peu Fion en français. Et Fion, F-I-O-N, ça veut dire le derrière, hein, au Chili. Donc un parfum de chez Ophiri, c'est un peu bizarre quand même, hein, en japonais aussi. Hein. Ça explique peut-être pourquoi ça sent mauvais. Bon, on fait de l'humour. Hein. On passe à la page 8. Ça ne devrait pas être permis d'empester le monde comme ça, continua la rombière, sûre de son bon droit. Continua la rombière. Alors il faut quand même faire une différence entre les paroles des personnages et les commentaires du narrateur. Bon, on n'a pas fait attention, hein, c'est très courant, c'est très habituel, mais dès le début, on avait « D'où qui put donc tant, se demanda Gabriel excédé. » « D'où qui put donc tant, c'est la parole de Gabriel, se demanda excédé, ce n'est pas la parole de Gabriel, c'est le commentaire du narrateur. » Donc il y a un narrateur, quelqu'un qui a pris le travail de nous raconter cette histoire, et il va nous donner les paroles des personnages et en même temps il va faire des commentaires. C'est pas nouveau, hein, c'est même très classique. Sauf que, normalement, quand on écrit dans un livre, on fait une différence entre les deux. C'est-à-dire que les paroles des personnages, on les met entre guillemets. C'est-à-dire, on utilise des guillemets qui sont des marques de citation, pour citer, donc quotation marks, et ça permet à tout le monde de savoir que ce n'est pas la parole du narrateur, c'est la parole du personnage. Et donc, si je veux répéter ce que quelqu'un a dit, parfois il y a des mots que je n'ai pas envie de dire, donc je préfère que ça reste sa parole. Donc je mets entre guillemets, il a dit merde. Mais c'est pas moi. Moi je ne dis pas merde, je ne suis pas Malfoy, moi. S'il y a des guillemets, il n'y a pas de problème, c'est pas ma parole. Et alors, normalement, on fait comme ça. Et puis les commentaires du narrateur, c'est dit-il, dit-elle, répond-il, répond tellement. Et avec des petits commentaires qui ressemblent un peu, vous savez, au théâtre, les commentaires de l'auteur, hein, c'est-à-dire le personnage entre en colère et il dit quelque chose. Donc, c'est le commentaire du narrateur au théâtre, on les appelle didascalie. Bon, c'est un mot un peu technique, mais c'est vrai que les Français le connaissent en général. Donc les commentaires pour aider les acteurs à jouer. Hein, donc les acteurs ne disent pas les didascalies, mais ils essayent de trouver la position, la situation pour respecter ces didascalies. Donc première didascalie, premier commentaire du narrateur, se demanda Gabriel excédé. Excédé, hein, ça nous donne une attitude du personnage. Alors, en général, les personnages disent tout ce qu'ils veulent, n'importe quoi, les choses les plus horribles. Et le narrateur a pour fonction de nous transmettre ses paroles. Alors souvent, le narrateur, il est un peu notre ami, hein, notre copain. C'est lui qui nous aide à comprendre. Il nous explique la situation. Et donc, en général, le narrateur utilise la même langue que nous. C'est-à-dire, il est poli, il s'exprime bien, hein, il choisit bien ses mots. Alors, ici, évidemment, ça va changer parce que le narrateur, alors donc, se demanda Gabriel excédé, ça c'est normal. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui pue comme ça ? Dit une bonne femme à haute voix. C'est normal. Hein, donc, on va respecter la didascalie et on va jouer comme ça. Qu'est-ce qui pue comme ça ? Hein, c'est haute voix. C'est-à-dire pour être entendu de Gabriel. Donc, Gabriel va lui répondre. Sa petite mère, répondit Gabriel, qui avait de la vitesse dans la répartie, c'est-à-dire qui répond tout de suite. Il n'y a pas de temps pour attendre. Sa petite mère, c'est Barbouze, un parfum de chez Fior. Réponse de la dame, ça ne devrait pas être permis d'empester le monde comme ça. Commentaire du narrateur, continua la rombière sûre de son bon droit. Mais qu'est-ce que c'est la rombière ? C'est un mot d'argot que vous allez trouver dans le dictionnaire. C'est un mot mal poli. Donc argotique, impoli. Impoli ou mal poli pour désigner une femme. Et donc c'est pas normal de la part du narrateur de choisir ce mot-là. C'est comme si le narrateur, d'un seul coup, devenait comme un personnage. C'est-à-dire le narrateur prend une sorte de liberté, hein, de s'exprimer comme il veut. Et surtout, de s'exprimer comme ces personnages. Alors, si le narrateur s'exprime comme ces personnages, il devient lui-même une sorte de partie de la population des personnages, et le lecteur, c'est-à-dire vous ou moi, on se retrouve tout seul. Il n'y a personne pour nous expliquer la situation, et on va trouver dans le texte des mots qu'on ne connaît pas, qui sont mal polis ou pas dans le dictionnaire, et qu'il va falloir essayer d'expliquer ou de comprendre. C'est comme si le narrateur classique, conventionnel, habituel de la littérature, était devenu un traître. Il nous a trahis. Il n'est plus de notre côté pour nous expliquer le texte, il est déjà du côté des personnages. Il va s'exprimer aussi mal que les personnages. Alors, ça ne devrait pas être permis, continua la rombière sûre de son bon droit. Si je comprends bien, petite mère, tu crois que ton parfum naturel fait la pige à su des rosiers ? Eh bien, tu te trompes, petite mère, tu te trompes. Alors bon, c'est la parole de Gabriel. Faire la pige A, vous avez une petite note, ça veut dire surpasse, hein, c'est-à-dire être meilleur que. Donc, si tu crois que ton parfum naturel, c'est un parfum sans parfum, hein, l'odeur de ton corps, est meilleur que de la rose, eh bien, tu te trompes. On comprend ça, s'il n'y a pas de problème. Hein. Donc, il ne faut pas croire que tu sens la rose, hein, madame, hein, tu sens mauvais. Bon. Mais à l'intérieur de cette façon de s'exprimer, on va trouver une allusion à la chanson, si tu t'imagines, parce que tu te trompes, petite mère, tu te trompes. Et dans la chanson, si tu t'imagines, dont on parlait tout à l'heure, chantée par Juliette Gréco, On va retrouver les paroles. Ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Si tu crois que ça va durer toujours, la saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. C'est-à-dire se tromper, se gourer, c'est la même chose, hein, c'est-à-dire être dans l'erreur, se tromper. Se tromper ou se gourer. Et donc dans la chanson, si tu crois, fillette, que ça va durer toujours, la saison des amours, eh bien, tu te trompes. En effet, ça ne dure pas toujours, la jeunesse ne dure pas toujours. La jeunesse ne dure pas toujours. Tiens, 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 tiens. Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière ce texte et derrière cette chanson, si tu t'imagines, autre chose? Ça vous dit rien? La jeunesse, ça dure pas toujours. Les roses, les rosiers.
Ronsard.
Ronsard. Alors comment ça commence le poème de Ronsard? Ouais, ça commence par cueil. Pas tout à fait, hein, ça doit commencer un petit peu autrement, mais on va trouver en effet le verbe cueillir. Cueillir, il faut cueillir les fleurs de la jeunesse pendant que l'on est jeune, parce que ça va passer. Donc, profitez de votre jeunesse, il y a encore des personnes assez jeunes ici, donc profitez bien de votre jeunesse pendant que vous êtes jeune, n'attendez pas autre chose. C'était le sens, en effet, d'un célèbre sonnet de Ronsard, dont j'ai oublié le début, donc... qu'est-ce que c'était Allons voir... Allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose... Ah donc c'est... Bon, il invite sa fiancée à aller dans le jardin. Vous imaginez, à l'époque de Ronsard, hein. Donc, on va descendre dans le jardin, on va voir les roses. Alors, voyez, mademoiselle, votre beauté, elle est comme celle des roses. Hein, c'est bien, hein, hein. C'est une bonne comparaison, hein. Puis, Queneau ajoute, ça sent bon en plus, hein, les roses. Mais attention, parce que la rose, ce soir, c'est fini. Et alors, vous? Bon, bah, il faut en profiter tout de suite, hein. Donc, vous et moi, hop, on va faire l'amour, hein. C'est ça l'idée de Ronsard, hein. Le recueil de poésie de Ronsard s'appelle Les Amours. Hein, donc, il s'agit bien de l'amour. Et donc, ça date du XVIe siècle. Hein, on est bien d'accord. C'est pas nouveau. Alors, Raymond Queneau connaît très très bien cette poésie. La chanson, si tu t'imagines, si vous écoutez, hein, sur YouTube, vous écoutez bien la fin de la chanson surtout. Vous allez voir après la jeunesse qu'est-ce qui se passe. Et donc, profite, il faut profiter, fillette, de la jeunesse. Alors, c'est pas demoiselle comme chez Ronsard, c'est fillette, fillette, fillette. Et ici, donc, on va retrouver un peu la forme, hein, uniquement la forme. Le parfum, celui des rosiers, et tu te trompes, petite mère, hein, c'est pas fillette, hein, c'est petite mère, tu te trompes. Et il y aura d'ailleurs une autre allusion à cette chanson, à la page 16. Une autre allusion à la page 16, exactement au milieu de la page. « Non mais, fillette, dit Gabriel, qu'est-ce que tu t'imagines ?» Vous voyez, là, on retrouve les mots « fillette » et « qu'est-ce que tu t'imagines ?» de la chanson « Si tu t'imagines ». Alors, je ne pense pas que Queneau manque de mots ou d'expressions, hein, mais c'est plutôt pour faire un petit signe, un petit coucou à ses amateurs, ceux qui aiment bien sa chanson, et on fait un petit clin d'œil. Vous connaissez l'expression « clin d'œil » avec l'œil? On fait un clin d'œil comme ça. Ça veut dire, vous et moi, on connaît quelque chose, les autres ne connaissent pas. Hein. Donc on est complices ensemble, on a cette connivence avec le clin d'œil. On ne va pas s'arrêter, bien sûr, à toutes les plaisanteries. Je vais souligner encore une fois que le narrateur n'est pas notre ami, c'est-à-dire qu'il est assez mal poli, lui aussi. Juste après, il dit « T'entends ça ?» dit la bonne femme à un petit type à côté d'elle, probablement celui qui avait le droit de la grimper légalement. Celui qui avait le droit de la grimper légalement, grimper ça veut dire monter, monter sur la femme, ça veut dire le mari. Celui qui a le droit de monter sur elle légalement, c'est la loi. Grâce à la loi, il a le droit de monter sur elle. C'est une façon assez audacieuse de désigner, de qualifier le mariage. Vous voyez, le narrateur, c'est pas un personnage qui dit ça, c'est le narrateur. Et pas très poli, le narrateur. On va s'amuser quand même avec lui. Voilà. Au milieu de la page 8, deuxième monologue de Gabriel. Gabriel soupira. Pourquoi il soupire? Parce qu'il est triste. Parce que quelqu'un lui a dit « Tu pues et gorille ». C'est pas agréable d'être traité de gorille. Mais on peut ajouter à la liste qu'on a vue tout à l'heure, Gabriel doit être assez grand, assez fort, et le petit type à côté, il le regarde, oh là là, mais... Voilà, donc Gabriel, gorille, après on va trouver armoire à glace, ça veut dire grand meuble comme ça, et puis ensuite on va trouver colosse aussi. Donc, vous imaginez Gabriel, et évidemment le contraste, c'est très important le contraste, pour l'humour, c'est très important. Alors le contraste, ça veut dire qu'il y a quelque chose de différent, et on va exagérer. Ce qui est petit est plus petit, ce qui est grand est plus grand. Donc on a oversize pour montrer la différence comme ça. Alors, dans les mangas japonais, c'est les grands yeux, comme ça, pour exprimer la tristesse ou l'étonnement. Évidemment, c'est pas comme ça en réalité. C'est normal. Donc, le contraste, très important pour l'humour, entre le grand Gabriel très fort et la petite Zazie, minuscule et qui bouge tout le temps. Ça sera très important. C'est ce qu'on appelle un ressort comique. Ressort, c'est comme un ressort, on peut appuyer dessus, à chaque fois ça marche, ça saute, comme ça. Un ressort comique. Alors ce monologue de Gabriel, encore faire appel à la violence, ça le dégoûtait cette contrainte. Depuis l'hominisation première, ça n'avait jamais arrêté. Mais enfin, fallait ce qu'il fallait, c'était pas de sa faute à lui, Gabriel, si c'était toujours les faibles qui emmerdaient le monde. Il allait tout de même laisser une chance aux moucherons. Moucherons, minuscules, petites mouches. Alors dans ce monologue, on voit encore que Gabriel est très cultivé. C'est un intellectuel. Il pense... Il est insulté par quelqu'un qui lui dit « tu pues et gorille ». Et il pense à l'hominisation. Qu'est-ce que ça veut dire l'hominisation? C'est la transformation historique, préhistorique, du singe en homme. Si on croit à la théorie de Darwin, au darwinisme de l'évolution des espèces. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a à nouveau un terrain, disons, une pensée de créationnisme, c'est-à-dire le monde a été créé comme dans la Bible, en 7 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi j'y crois pas, mais voilà. Alors, le darwinisme, l'hominisation, et la transformation en homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la transformation en être civilisé, civilisation. On parle ensemble, on fait des lois, on a une police, etc. Mais c'est pas possible. On est toujours obligé de taper, utiliser la violence. Et contre qui? Contre les faibles, parce que ce sont toujours les faibles qui, je cite, hein, c'est pas moi, emmerdaient le monde. Alors le verbe emmerder, très vulgaire évidemment, mais gêner, déranger, poser des problèmes, emmerder. Alors bon, c'est un dialogue, et ce dialogue, on va l'appeler burlesque. Je pense que vous connaissez le mot burlesque. Et le burlesque, cette sorte de comique, d'amusement burlesque, va être construit ici par le contraste, encore un contraste, entre les paroles des personnages « Eh, tu pues, gorille bon. !» et la pensée des personnages, qui sont des pensées intellectuelles complexes, avec des explications comme « hominisation » ou « dans le journal, 11%, etc. » donc des paroles tout à fait triviales, et des pensées intellectuelles et alors le contraste entre les deux provoque une sorte de comique qu'on appelle le burlesque. Alors le burlesque a d'autres formes plus classiques. Par exemple, on prend une épopée tout à fait tragique de personnages héroïques de la guerre et on les fait parler de façon très vulgaire. Hein. Ou le contraire, d'ailleurs. On prend une histoire très vulgaire et on fait parler les gens de façon très noble, comme si c'était le roi et la reine. Bon, c'est le burlesque. Voilà donc un autre type de burlesque, peut-être inventé par Queneau, grâce au monologue intérieur. Alors, en bas de la page 8, on va retrouver une deuxième expression, comme « d'où qui pue donc tant », c'est « ce que tu as dit tout à l'heure ». Qu'est-ce que ça veut dire « ce que tu as dit tout à l'heure »?
Ce que tu as dit tout à l'heure.
Ce que tu as dit, ce que tu as dit tout à l'heure, juste avant. Ce que tu as dit tout à l'heure. Ce que tu as dit tout à l'heure. Vous voyez, vous allez vite comprendre. Il suffit de le dire comme ça, et puis on le reconnaît. Ce que tu as dit tout à l'heure. Eh oui. Alors, ce que tu as dit tout à l'heure, là encore, par contraste, entre la pensée et la parole, le narrateur dit que c'est une pentasyllabe monophasée. Penta, ça veut dire cinq. Donc cinq syllabes, ce que t'as dit t'as-leur, cinq syllabes. Monophasé, ça veut dire une seule phase, pas de pause, pas de temps. C'est pas ce que t'as dit tout à l'heure ou ce que t'as dit tout à l'heure, c'est un seul coup comme ça, ce que t'as dit tout à l'heure, monophase. Évidemment, c'est ridicule, pentasyllabe monophasé, ça ne sert à rien du tout. Mais l'autre répond, page 9, il a besoin de se défendre un peu, donc on va trouver une très belle métaphore qui est le bouclier verbal. Première ligne. Il a besoin d'un bouclier verbal. Un bouclier, vous savez, c'est pour se défendre. Donc un truc en métal comme ça qu'on utilise pour recevoir les coups d'épée. Donc bouclier. Bouclier verbal. Si vous lisez un peu les journaux français, depuis quelque temps, on parle beaucoup du bouclier fiscal. Le bouclier fiscal, je vous renvoie à l'actualité, ça veut dire qu'on a limité les impôts des riches à 50%. Il n'y a pas de riches qui payent plus de 50%, c'est interdit en France. Sarkozy n'a pas que des amis à cause de ça. Bien sûr, les riches sont très contents, mais les riches ne sont pas très nombreux. C'est ça le problème de Sarkozy en ce moment. Ouais. Bref, bouclier verbal. Alors c'est donc une parole pour se défendre. Et ce bouclier verbal, par hasard, c'est un alexandrin. Tout à fait par hasard. Hein. Donc, d'abord, je ne vous permets pas de me tutoyer. Vous pouvez compter. Hein. D'abord, je ne vous permets pas de me tutoyer. 12. Enfin, ce n'est pas très correct parce que un vrai alexandrin, il serait vraiment bien écrit en français. Il y aurait la négation « je ne vous permets pas ». Alors que ça ne fait pas 12, là, ça fait 13. Bon, tant pis. Réponse de Gabriel, foireux. Simplicité, hein, c'est très court. Alors, foireux, vous avez une petite note, lamentablement inefficace. Oui, enfin, on pourrait discuter, enfin, c'est pas grave. Alors, donc Gabriel commence, hein, il commence à lever le bras comme ça pour donner un coup. Et donc, ça s'appelle en argot la baigne. Il leva le bras comme s'il voulait donner la baigne à son interlocuteur. La baigne, c'est bien sûr le coup que l'autre mérite. Hein, il est mérité. Donc c'est pour ça qu'il y a la baigne et non pas une baigne. Il le mérite bien, mais justement à ce moment-là, d'ailleurs l'autre se couche par terre, hein, se cache derrière les jambes des gens. Heureusement, v'là le train qui entre en gare. Alors, ça veut dire que Zazie et sa maman vont arriver. Les premières paroles de Zazie, c'est au milieu de la page 9. « Je suis Zazie, je parie que tu es mon tonton Gabriel. »« C'est bien moi, » répond Gabriel en anoblissant son ton. « Oui, je suis ton tonton. » Alors bon, il y a un petit jeu phonétique, ton tonton, mais en même temps, Gabriel, en anoblissant son ton. Le ton, c'est la façon de parler. Donc, quand on lit l'ensemble, hein, ça donne « C'est bien moi, » répond Gabriel, « en anoblissant son ton, oui, je suis ton tonton. Hein, »« Son ton, oui, je suis ton tonton. » Vous pouvez vous entraîner pour la bonne prononciation. C'est un bon exercice. « La gosse se marre », ce sont des commentaires du narrateur, avec deux mots argotiques. « Gosse », ça veut dire « enfant », et « se marrer », ça veut dire « rire ». « Rire », »,« rigoler ». Bien sûr, tous les Français que vous pouvez voir ici, à l'Institut ou ailleurs, utilisent ces mots. Hein. Lorsqu'on parle de ses enfants, une dame ici ne dira pas « mes enfants ». Tout naturellement, elle va dire « mes gosses ». Et vous lui dites quelque chose d'amusant, elle va dire « ah, je me marre ». Je me marre ou ça me fait marrer, c'est tout à fait normal. Mais malheureusement, ça n'est pas ce qu'on apprend dans les cours de français. Et pourtant, 60 ans après Raymond Queneau, on ne fait toujours pas de cours de vrai français contemporain, qui n'est même plus contemporain d'ailleurs. C'est une autre histoire. Alors, je vous montre le début du film, et puis on verra la suite du texte la semaine prochaine. Voyage en train pour faire défiler les informations du générique. Alors en même temps, ça permet de voir justement la transformation de la société, parce que dans les années 50, apparaissent, ça ce sont des bâtiments, c'est un bâtiment plus ancien, mais ici à droite, un bâtiment plus moderne, d'après-guerre, qui est déjà une sorte de danchi, de HLM. Il y a beaucoup de voies pour répartir les trains vers la gare. Et en même temps, on entend le son du train, le bruit du train, et quelqu'un qui siffle.
Mais d'où il buvait autant ? C'est pas possible, ce que je vois jamais. Quand on a envie que 40% des appartements à Paris pour des salles de bain, ça m'étonne pas, mais on peut se laver ça. Tous ceux qui vont à Tours ne peuvent pas faire de grands efforts. D'un autre côté, ce n'est pas un choix parmi les plus grasses de Paris, il n'y a pas de raison. C'est le hasard qui les arrive. On ne peut pas supposer que les gens qui attendent à la gare de l'Est sont plus mauvais que ceux qui attendent à la gare de Lyon. Non, vraiment, il n'y a pas de raison. Quand même, quelle odeur.
Mais qu'est-ce qui fait comme ça?
Sa petite mère, c'est Margot. Un parfum de chez Kia.
Ah, on ne pourrait pas être permis dans ce qu'il y a de monde comme ça, hein.
Thank you.
ici, on est déjà dans la troisième partie du premier chapitre. Hein, nous, on a vu ce matin, on a vu que le début, hein, l'attente à la gare d'Austerlitz, et en commençant à expliquer l'arrivée du train de Zazie et de Jeanne, vous avez vu, et puis maintenant en taxi, hein, qu'on appelle le TAC à Charles, c'est son ami, et Zazie aurait préféré prendre le métro, mais il y a grève. Donc, on lui dit que Charles attend. Et Charles attend, c'est une sorte de blague que tout le monde connaît, qu'on appelle calembour, Charles attend. C'est-à-dire, si on vous dit Charles attend, vous entendez Charles attend. Et Zazie dit, ah ouais, je la connais celle-là. Et ça l'amuse. Bon, voilà. Donc ça, c'est d'un niveau qu'on appelle assez bas, hein, dans l'humour, dans le jeu de la langue. Victor Hugo considérait que ce genre de jeu de mots, c'était ce qu'il y avait de plus vulgaire dans l'esprit, hein, l'esprit français ou de la langue. Et puis d'autres expressions à propos de la mère, qui s'appelle donc Jeanne, elle a un Jules, c'est-à-dire avoir un amant. Zazie dit elle est mordue. Être mordu, ça veut dire être amoureux, hein, être amoureux, être accroché à quelqu'un et comme mordu, tenu par les dents. On peut l'imaginer comme ça. Et vous avez vu ici une petite liberté que Louis Malle a prise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans le texte de moment où Zazie échappe comme ça pour descendre dans le métro, ça n'arrive que plus tard, au chapitre 3. Mais pour Louis Malle, ça permet de montrer tout de suite à l'image le métro. Et on retrouve exactement le texte, hein, de Penaud. Donc bon, c'est très bien fait comme ça. Voilà, de temps en temps, je vous montrerai quelques petits bouts de films qui correspondent à notre lecture. Et je pense qu'on peut trouver ça ici à la médiathèque, ou sinon à la librairie, sur Amazon, etc. Ça coûte pas très cher parce que ça a été réédité. Encore l'année dernière, je le cherchais sur Amazon et ça coûtait très cher, mais il a été réédité, donc c'est beaucoup moins cher, 2000 yens à peu près. Voilà, merci pour cette première séance. Inscrivez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis j'espère à la semaine prochaine pour la suite. Si vous avez des questions sur le chapitre 1, préparez-les. Et on s'attachera plus précisément au chapitre 2 et 3. Au revoir, à la semaine prochaine. Merci. Ah, c'est très gentil. Je me disais que j'allais la chercher cette chanson. C'est très bien. Mon action. Vous m'avez fait gagner du temps. Ah, la quinzaine de Rémi. Ça ressemble pas tout à fait aux invalides. C'est quand même très différent des invalides.
Ah oui, c'est ça.